Bien voilà, je pense qu'on va reprendre sans tarder, puisque les intervenants nous font la politesse de respecter leur temps de parole qui est fixé à 20 minutes. On va nous assurer au niveau de l'organisation qu'il ne soit pas décalé ou brimé ou devant finir rapidement. Et je pense, comme il est bon de dire dans toutes circonstances et lorsque l'on prend la parole en public actuellement, que c'est le momentum pour impacter un nouveau paradigme. Vous remarquez, retenez cette phrase, elle sert tout le temps. Ce sont des mots qui sont dans le vocabulaire en permanence. On va effectivement changer, non pas de sujet, mais de registre d'approche, puisque entre deux interventions de scientifiques chevronnés, chacun dans leur domaine, on reste dans la science, mais un peu dans la réflexion, dans un autre monde des sens, et c'est Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'UCL, à qui je cède la parole pour approcher la question qui nous rassemble cet après-midi. À toi, Jean.
Voilà. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Heureux d'être avec vous ce soir à Enghien. Difficile, bien entendu, de parler de ce rapport entre science et religion dans le programme « Science est au singulier »,« Religion est au singulier », ça veut déjà dire certaines choses. Surtout, sachant que c'est un sujet qui est en fait, je pense, d'une extrême complexité. Alors, si vous le voulez bien, au début, je vais vous citer quelques chiffres, et puis à la fin, je terminerai aussi avec quelques chiffres. Vous savez qu'il y a de grandes enquêtes sur les convictions, les croyances, et en particulier l'organisme Gallup fait très régulièrement des enquêtes qui sont des enquêtes, attention, d'auto-perception, dans lesquelles on demande aux individus s'ils se prétendent religieux, s'ils se prétendent non religieux et s'ils se disent athées. Le troisième terme, évidemment, sur le plan du concept, dans son extension et dans sa compréhension, étant le concept le plus stable et peut-être le plus fiable. Alors en 2012, mondialement, 59% de personnes se disaient religieuses, 23% se disaient non religieuses et 13% se disaient athées. 3 ans plus tard, donc c'est le dernier sondage d'avril 2015, 63% se disaient religieux, c'est donc une augmentation de 4%, 22% se disaient non religieux, c'est une diminution d'1%, et 11% se disaient athées, c'est une diminution de 2%. C'est la Chine qui est le pays le moins religieux, avec 61% de personnes qui se disent athées. Puis Hong Kong, 34%, le Japon, 31%, et dans notre petite Europe, c'est la République tchèque, avec 30% qui est le premier pays en termes d'athéisme. Par contre, c'est le pays dont le roi vient de mourir, la Thaïlande, qui est le pays le plus religieux, 94%, suivi, même pourcentage, de l'Arménie, du Bangladesh, de la Géorgie et du Maroc, avec 93%. Et en Afrique et au Moyen-Orient, c'est entre 86% et 82% de personnes qui se disent religieuses. Les enquêtes de Gallup sont assez intéressantes parce qu'elles montrent aussi qu'il y a des équations. Il y a une équation entre le fait d'avoir moins de degrés d'éducation et d'être plus religieux, et il y a une équation entre le fait d'avoir moins de ressources financières et d'être plus religieux. Alors dans notre petite Belgique, eh bien là, je me réfère aux dernières enquêtes du soir, c'était juste il y a un an. Tenez-vous bien, 20% des Belges se disent catholiques pratiquants, 43% se disent catholiques non pratiquants et 26% sont de conviction ou de confession musulmane. Ce qui veut dire, pour la Belgique, je n'entre pas dans le détail des régions, cela veut donc dire 79% de personnes qui se revendiquent comme étant religieuses, en l'occurrence ici, deux monothéismes principaux, l'islam et le catholicisme. Alors j'ai parlé de religion, eh bien si vous me le permettez, je vous dirai d'abord que c'est un mot qui est un mot d'une extrême complexité. C'est un mot qui est issu d'un petit lopin de terre, le latium, les latins. Et c'est un mot qui, dans son origine, est déjà bien compliqué. Dit autrement, quand nous utilisons ce mot, quand nous parlons avec ce mot, nous utilisons un mot dont l'origine est extrêmement fragile. Je m'explique. Au 1er siècle avant l'ère commune, Cicéron réfléchit à ce qu'est la religio. Et il doit donc trouver l'étymologie de ce mot, c'est-à-dire son origine. Alors il parle à des contemporains qui ne connaissent plus déjà une partie de leur langue et qui donc ne comprennent plus l'étymologie de ce mot, qui est « relégueré ». Et comme ses contemporains ne comprennent plus ce mot « relégueré », il emploie un synonyme dans la langue latine et il utilise le mot « rétractare », qui est un vieux genre littéraire chez les latins, la « rétractationes », les « rétractationes ». Ça veut donc dire que lorsque Cicéron doit expliquer ce qu'est la religion, il l'attire du côté de ce qui est la réflexion, le recul, la distance, le recueillement, certains diront la relecture. Et il dit que le contraire de ce mot religio, qu'il rattache donc à relégueré, c'est le néglégeré, c'est-à-dire la négligence. Et il dit également que le contraire de ce mot est aussi la superstitio. Et pour un latin, la superstitio est quelque chose de très particulier. Ça consiste à se projeter dans le passé en faisant comme si on y était, c'est donc prendre en quelque sorte le point de vue des dieux. Et étant dans le passé, bien sûr, on s'autorise à prophétiser ce qui viendra, c'est-à-dire à évoquer le futur. Donc, Cicéron va dire que la religio est quelque chose qui est de l'ordre du scrupule. Bon. Mais quand arrive ce phénomène du judéo-christianisme, et quand nous arrivons au 1er siècle de l'ère commune, que voit-on apparaître? On voit une prétention qui est assez bien étudiée sur le plan scientifique et sur le plan des textes et des sources aussi. On voit une prétention des chrétiens qui consiste à revendiquer deux choses. Je ne vais pas m'occuper de la première, je vais me focaliser sur la deuxième. La première, elle est très simple, elle consiste à dire qu'en réalité, la véritable philosophie, et n'oublions pas que nous transitons du monde des Grecs au monde judéo-chrétien, que pour les premiers chrétiens, la véritable philosophie, c'est le christianisme. Donc, quand le christianisme s'instaure comme mouvement de pensée, il s'instaure comme étant la vraie philosophie. Et il fait une deuxième opération de prétention, qui a évidemment une certaine violence. Il va prendre le terme « religio », il va déformer l'étymologie, et ils vont dire, par exemple chez Lactance, un auteur chrétien, que l'étymologie du mot n'est pas « relégueré », c'est-à-dire le recueillement, c'est-à-dire pour nous, avec des catégories qui sont les nôtres, le plan d'immanence, mais que justement la religio s'apparente à un religare, c'est-à-dire à une reliance, et donc les chrétiens inventent le plan de la transcendance. Mais ils font aussi une deuxième opération qui est extrêmement violente, c'est-à-dire qu'ils disent que la religio des latins, effectivement il y avait aussi des religions civiles, devient la fausse religion, et que donc la vraie religion est bien le christianisme. Donc, ils font une double opération, ils se présentent comme étant la philosophie et ils revendiquent d'être la vraie religion, et tout ce qui est le reste est tout simplement déclaré comme étant faux. Dit autrement, quand nous utilisons encore au XXIe siècle ce mot, nous devons être extrêmement prudents avec lui. Pourquoi ? D'abord parce que, comme je le dis souvent à mes étudiants, c'est une appellation d'origine protégée et contrôlée, d'un tout petit lopin conceptuel qui a été exporté très chèrement et nous en payons très cher l'exportation. Je ne sais pas si en Chine, je ne sais pas si au Maroc et je ne sais pas si au Japon, quand on dit religion, on dit bien ce que nous voulons dire avec le mot qui est le nôtre et son histoire. Et donc, je dis aussi qu'avec ce mot, nous devons être extrêmement vigilants parce que nous ne pouvons pas lui conférer le rôle d'une catégorie première comme il existe en philosophie des catégories. C'est donc un mot qui est fragile, c'est un mot qui est vulnérable, c'est un mot qui a une histoire compliquée et que l'on peut définir de deux façons. C'est un mot qui est européocentré, et c'est aussi un mot qui a par nature une vocation missionnaire puisqu'il a été exporté et en particulier par les chrétiens. Et la preuve en est sur le plan de l'histoire des concepts que les Grecs, qui sont quand même des penseurs majeurs et qui sont importants sur le plan de l'activité conceptuelle, n'avaient pas véritablement de mot équivalent pour dire la religio, ils parlaient plutôt de treskeia, mais ça c'est une autre histoire, c'est déjà le culte. Alors comment, à travers et après cette première approche historique, que dire, que pourrait-on dire de la religion au singulier, au sens où le Folder l'entend? Je dirais que, tout d'abord, nous avons besoin d'avoir une approche scientifique de la religion et des religions. Et pour ma part, je les considère tout d'abord comme une affaire d'homme, et on devrait dire rarement de femme, malheureusement, qui trouve, à mon avis, son origine ou sa lointaine conscience dans ce que j'appellerais des états complexes de la conscience. Et que, à cet égard-là, les humains que nous sommes, sommes en réalité des créateurs de symboles. Et donc, nous avons inventé des langages binaires. Nous avons inventé le sacré et le profane. Nous avons inventé une nature et une surnature. Nous avons inventé une immanence et une transcendance. Et nous avons procédé avec un ensemble de créations symboliques. Nous nous sommes racontés des histoires avec des majuscules et des minuscules. Nous nous sommes racontés des fables. Nous nous sommes racontés des mythes, bref, nous avons cherché du sens et nous avons voulu cela par rapport à notre expérience de la quotidienneté. Cette activité symbolique, elle se dit effectivement par des rites, elle se dit aussi par des gestes et par des paroles, et je crois aussi, c'est important pour la compréhension du mot religion, en tout cas pour sa compréhension par un professeur de philosophie, je crois qu'elle se construit surtout à partir du sentiment de finitude. Et au sentiment de finitude, je rattacherai également le sentiment de l'angoisse, et qui peut être donc une angoisse collective et une angoisse individuelle, ce qui fait donc qu'effectivement la religion peut tourner du côté des plus grandes détresses, des plus grandes pauvretés, des sentiments d'oppression. Mais donc, je dis que la religion s'apparente à la création d'une fable, en tout cas une histoire que nous nous racontons. Et en ce sens-là, la religion des Grecs, mais vous voyez que désormais il faut utiliser les guillemets avec ce mot « religion » parce que les Grecs n'avaient pas ce mot-là, mais en tout cas, la treskeia des Grecs est aussi intéressante à cet égard. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre qu'en réalité, ils pensent des choses qu'ils disent sacrées, en grec les taiera, à partir justement d'une expérience de la physis, que nous traduisons improprement par le mot physique. Et donc, devant ce monde matériel, eh bien, ils se racontent eux aussi des mythes, des fables et des histoires sur toutes les choses qui touchent en réalité l'existence, la vie, la fécondité, la fertilité, la mort, la survie, etc. On peut donc dire que donc, déjà dès l'origine, ces religions, et cette religion en particulier, elle se construit sur un socle naturaliste. Alors bien sûr, lorsque nous parlons de religion et lorsque nous parlons de croyance, je crois que nous devons dire que nous avons là un mode, très particulier du croire. Alors, une religion, quelle qu'elle soit, se caractérise par un ensemble de points ou un ensemble de structures que l'on peut toujours repérer. Alors, j'en liste ce soir trois, il y en aurait plusieurs, mais je liste les trois principales. On peut dire qu'en général, une religion, c'est un discours fondateur qui est toujours de type mythologique et qui est un discours qui veut aussi s'emparer des origines. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, une religion va tenter d'avoir une interprétation et une compréhension de l'histoire, mais avec un début et avec une fin. Techniquement, c'est ce qu'on appelle une protologie et une eschatologie. Un discours sur le début et un discours sur la fin. Et enfin, troisièmement, elle va toujours mettre au point une communauté d'appartenance, avec des rites qui sont spécifiques, avec des normes internes d'organisation, avec un ensemble de lois et de morales, mais qui vont se rattacher à un système de transcendance, c'est-à-dire une Torah, une charia, des commandements, etc. C'est une des raisons pour laquelle nous devons dire que la religion, et c'est une formule que je tiens de mon ami Régis Debray, c'est une entité de sens qui provoque du « eux » et du « nous ». Car à partir du moment où vous construisez sur ces trois bases, eh bien, vous générez du « eux » et du « nous ». Cela veut donc dire que d'emblée, quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les religieux, ces croyances sont en conflit. Et l'on peut même définir la dogmatique, c'est même une définition qui est assez bien acceptée, même chez les théologiens, on peut donc définir la dogmatique comme étant un procédé systématique où l'on va organiser le corpus de croyances à partir ou en fonction de l'exclusion d'un autre corpus de croyances. Et c'est ainsi que l'on va donc créer une dogmatique dans laquelle il y aura une orthodoxie, une hétérodoxie, il y aura bien entendu des hérésies et des hérétiques, etc. Vous connaissez le vocabulaire. Alors, vous aurez reconnu aussi ce petit mot important, la doxa. Et pour un philosophe, évidemment, c'est un moment important, parce qu'en réalité, ce problème de la foi et de la raison, ce problème de la religion et de la science, trouve peut-être une de ses origines dans cette tension entre la doxa et l'épistémé. Quand le grec parle de la doxa, il parle en réalité des opinions, il parle des savoirs informels, il parle des apparences qui sont trompeuses, il parle en tout cas de tout ce qui n'est pas de l'ordre d'une vérité démontrée. Et du coup, les premiers philosophes grecs, et en particulier Aristote, va mettre au point un ensemble de techniques, certes pour reprendre ce qu'il y a dans les doxoi, dans ces rumeurs, dans ces opinions, également dans ces croyances, et pour voir ce que l'on peut faire sur le plan d'une proposition de sens, qui soit une proposition bien sûr démontrable. Et donc du coup, ce qu'il faut faire pour le philosophe grec, en contrepartie de la doxa, c'est chercher une épistémé, c'est-à-dire un savoir, une connaissance qui va correspondre à des structures bien particulières. Et en particulier, trois choses élémentaires pour Aristote, qui sont en réalité pour lui la constitution de la science. Il faut statuer sur l'universalité, il faut statuer sur la causalité et il faut statuer sur la nécessité. Dit autrement, il y a donc pour la philosophie une sorte de rupture, mais que l'on peut bien sûr tenter d'articuler, entre d'une part ce qui est de l'ordre de la doxa et des opinions, c'est-à-dire le croire, un ensemble de choses que l'on va tenir pour vraisemblables, mais choses pour lesquelles il n'y a pas de certitude objective, et de l'autre côté, l'ordre de l'épistémé, c'est-à-dire des choses où il y aura effectivement un ordre de la démonstration, il y aura des preuves, il y aura des opérations de vérification et de falsification, il y aura des expériences, il y aura de l'empirisme, et aussi, pour le philosophe, il y aura des sophismes et des paralogismes, c'est-à-dire des erreurs de raisonnement. Vous voyez donc qu'on peut dire à cet égard que le croire, pour le philosophe, c'est un degré pauvre ou un degré minimal de savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'incertain, parce qu'il y a de l'approximation, parce qu'il y a une possible superstition, et si il y a une possible superstition, il y a bien sûr la possibilité d'une aliénation. Alors c'est cela qui fait sans doute que tout au cours de l'histoire, il y a eu des grands mouvements de tension. Alors effectivement, on pourrait repartir de l'affaire Galilée, il faudrait aussi peut-être évoquer Copernic, Kepler, mais je voudrais plutôt m'en tenir à trois grands, pour rappeler trois grands traumatismes de ce rapport entre science et religion à partir de la fin du XIXe siècle ou de la moitié du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Le premier traumatisme, je vais être beaucoup plus bref là-dessus parce qu'il a déjà été abordé par le premier conférencier, c'est sans doute la publication en 1859 de l'origine des espèces par Darwin, qui a provoqué véritablement pour l'ensemble des corpus religieux un choc considérable. Le deuxième moment, le deuxième traumatisme, c'est en fait ce qui s'est passé à l'intérieur des convictions elles-mêmes à partir du moment où il y a la construction de ce qu'on appelle les sciences des religions. Et donc les religions deviennent elles-mêmes les objets de démarches scientifiques. La philologie, l'histoire en particulier, et puis alors après la psychologie, la sociologie. Et là, évidemment, il y a des moments qui sont extrêmement constitutifs. Par exemple, quand William James écrit en 1902 un ouvrage important sur les formes de l'expérience religieuse, ou quand Max Weber et Durkheim donnent une sociologie de l'expérience religieuse, ou quand Renan, en 1863, écrit La vie de Jésus, ou même quand dans les institutions universitaires, à la fin du XIXe siècle, à Paris, en 1886, la Sorbonne voit sa faculté de théologie expulsée et devenir un département d'études des sciences des religions, la fameuse école pratique des hautes études. Et parfois je me dis que si on avait connu cette histoire institutionnelle en Belgique, on n'en serait peut-être pas là dans certains problèmes qui sont les nôtres actuellement. Et puis alors il y a un troisième traumatisme, donc après le deuxième qui est au fond cette espèce de travail qui se fait à l'interne, je pense qu'on peut dire que c'est le travail que Freud fait autour de l'inconscient. Et il est d'ailleurs assez intéressant de voir que même Freud est aussi traduit en arabe à partir des années 1940 en Égypte, et même dans le corpus musulman fait aussi ce même travail de réflexion et de critique. Et donc là, si vous voulez, je pense qu'on a une orientation assez intéressante pour la critique de la religion, et en particulier plus sur le plan de l'intériorité, c'est-à-dire la critique de l'expérience religieuse et de l'expérience mystique. Alors bien sûr, avec Freud, c'est tout un courant qui aboutit. Je rappelle en particulier que, avec quelqu'un d'assez intéressant, à la fin du XIXe siècle, il est devenu totalement inconnu, mais c'est Ribot qui a fondé une très grande revue, Revue philosophique de la France et de l'étranger. Et Ribot disait, Ribot était très intéressé par la mystique. Alors il était matérialiste, c'était un empiriste, c'était un rationaliste, et il disait qu'au fond, la seule chose qui manquait pour comprendre la mystique, c'était de retrouver le crâne de Sainte Thérèse d'Avila. Parce qu'il disait que si on retrouvait le crâne de Sainte Thérèse d'Avila, on pourrait faire une comparaison de type scientifique entre le crâne de ces malades mentaux qu'il auscultait, qu'il recevait à la Salpêtrière, et il disait on pourrait faire des études comparatives sur la cérébration nerveuse, etc. Donc ça, c'est le troisième moment. Alors on pourrait donc bien sûr aussi ajouter d'autres choses, on pourrait ajouter la relativité, on pourrait ajouter la mécanique quantique, les théories du chaos, etc. La liste pourrait s'allonger. Mais donc, dit autrement, et je conclue par là, on voit donc bien que dans ce rapport entre doxa et épistémé, dans ce rapport entre science et religion, il y a un ensemble de tensions. Et puisque Jean évoquait la question des paradigmes, oui, effectivement, il y a des paradigmes de la religion qui sont remis en question par un ensemble de rationalité, et en particulier la rationalité, ou on devrait parler au pluriel, les rationalités scientifiques. Et donc, dit autrement, pour conclure, on pourrait envisager différents scénarios. On pourrait dire que, effectivement, la science et les sciences ont engendré, par leur méthodologie de travail, par ce qu'elles recherchent quand elles veulent faire science, elles ont effectivement engendré l'athéisme ou l'agnosticisme. Mais elles ont aussi permis des réinterprétations. Elles ont donc permis des réinterprétations à l'intérieur des religions elles-mêmes. Mais ne l'oublions pas non plus, c'est aussi le côté négatif. Elles ont aussi donné des réactions fondamentalistes, en particulier quand, je pense dans certaines théories concordistes notamment, il y a eu un anti-scientisme qui a fait qu'on voit réapparaître des théories de type fondamentaliste. Et puis bien sûr, elles ont permis certaines innovations. Alors je vous avais dit, j'ai commencé l'exposé, et pour m'en tenir parfaitement dans les temps par des chiffres, je vais le terminer par d'autres chiffres. En 1998, la revue britannique Nature publiait les résultats d'une enquête assez intéressante qui concernait cette fois le niveau de croyance, toujours, mais le niveau de croyance chez les chercheurs qui sont impliqués dans la recherche fondamentale. Alors écoutez bien les chiffres. Si 94,5% des biologistes tendent vers un athéisme, alors qu'il est ou bien déclaré ou bien athée, parce que ça dépend du pays dans lequel vous travaillez, ce pourcentage apparaît atteint près de 100% dans le domaine des neurosciences. Donc 95% chez les biologistes, 100% dans le domaine des neurosciences. En revanche, le niveau d'incroyance est légèrement plus faible chez les mathématiciens, 85,7%. Chez les astronomes, 92%, et chez les physiciens, également 92%. On peut donc dire, à l'aide de ces chiffres, que l'athéisme augmente linéairement avec le degré de compétence scientifique des chercheurs. C'est donc un phénomène qui relèverait sans doute d'une plus grande liberté conceptuelle et peut-être d'une plus grande ampleur dans la maîtrise du sens et de l'esprit critique. Je vous remercie beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Jean, de nous avoir fait voyager à travers quelques grands traumas pour parler, pour passer de la doxa à l'épistémée. Et effectivement, mais il y a aussi quelque chose au niveau de l'approche scientifique. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens pour mentir, se travestir la vérité, mentir ou utiliser la statistique. Je ne mets pas en cause les chiffres avancés par Jean qui sont parfaitement exacts, mais parfois on fait des amalgames avec la statistique, donc en disant que le niveau de religiosité ou de croyance est plus grand auprès des populations qui ont moins de formation et moins de moyens socio-économiques, je ne voudrais pas, par rapport au public ici, en tirer le principe inverse. Bon, je passe maintenant directement la parole à François Englert. Vous le savez tous, il est prix Nobel de physique et professeur émérite du département de physique théorique. En voilà le second du panel à l'Université libre de Bruxelles. François Englert, vous avez la parole.
Petite remarque au début. Ce genre de micro, pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, plutôt pour vous. Parce que, en général, je parle comme ça. Ah, mais ça ne va déjà pas. Vous m'entendez? Ben, j'espère que ce ne sera pas uniquement par moment. Bon. Mais je pourrais le prendre avec l'autre bras, parce que, avec l'autre bras, mais comme je me suis débile l'épaule, alors il ne bouge pas beaucoup pour le moment, mais ça me fait mal, alors je vais même prendre celui-ci. Voilà. Bon, je vais donc parler de la religion et de la science, et je prendrai simplement le soin de définir pour moi ce que j'entends par là, sans vouloir faire une étude exhaustive de ce que les gens appellent la science ou la religion. Et je vais commencer par... Oui, donc je ne ferai pas non plus... Enfin, vous verrez bien ce que je fais. Enfin. Bon, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. En 1960, j'étais aux États-Unis, à l'université, à Cornell University, et aux États-Unis, donc, et c'était pour, disons, mon premier... D'ailleurs, ça a été le seul... C'est mon premier post-doc. Et comme on dit maintenant. Et j'assistais à une conférence scientifique sur la cosmologie, c'est-à-dire sur l'histoire de l'univers. Mais on savait à l'époque, on savait que l'univers était en expansion. Mais il y avait différents camps, je dirais, dans le groupe scientifique. Il y avait ceux qui pensaient que l'univers était éternel, il avait toujours existé, il existera toujours, et évidemment, comme il était en expansion, les galaxies s'éloignaient les uns des autres, donc ils se dépeuplaient, mais il était constamment recréé par de la nouvelle matière, et c'était donc l'idée d'un univers éternel. Et il y avait un autre groupe qui pensait que... Ben, s'il était en expansion, ben avant, tout ça était concentré quelque part, et donc il y avait un début, et l'univers se raréfiait par son expansion. C'était deux groupes, et les deux paraissaient, d'ailleurs à l'époque, compatibles avec... Les deux paraissaient compatibles avec les lois de la physique qu'on connaissait. Bon, mais à mon grand étonnement, la confrontation n'était pas du tout très gentille. Elle est très rapidement devenue extrêmement houleuse. Enfin, tous ceux qui étaient partisans de l'univers qui était créé, ou qui est né, comme on voudra, traités, mais vraiment très agressivement, ceux qui étaient partisans d'un univers éternel. En fait, c'était plutôt le contraire. C'était ceux qui traitaient... ils s'engueulaient tous, mais enfin... ceux qui étaient partisans d'un univers éternel traitaient ceux qui pensaient que l'univers était créé de bigots, de suppôts des églises et des choses comme ça. Et c'était assez violent. Très curieusement, moi j'étais un peu sidéré, je ne pensais pas que les scientifiques se comportaient comme ça. Mais le problème, donc j'étais en 60, en 65, le problème a été réglé. Parce qu'en 65, on a fait la découverte d'un rayonnement d'ondes de millimétriques, d'ondes radio, si vous voulez, qui était émise de toutes les régions de l'univers, et un peu de physique élémentaire impliquée. Que ça voulait dire que, à un certain moment dans une expansion, l'univers était très chaud, et donc il ne pouvait pas tout dépasser, donc il y avait un début où l'univers était extrêmement chaud, et puis il se raréfiait. Il n'y avait pas de doute à ce sujet, expérimentalement, l'univers éternel était banni. Bon, la plupart, pratiquement tous les scientifiques étaient d'accord, et donc, ça permet de voir au moins une chose. D'abord que tout de même les scientifiques, mais quand ils sont confrontés à la vérification expérimentale qui est absolument claire, ils peuvent surmonter ce qui n'était finalement que des préjugés. Mais il y avait autre chose. Pourquoi cette violence ? Mais cette violence de l'opposition de certains scientifiques, c'est que la création du monde par un acte divin apparaît évidemment dans toutes les religions monothéistes et que cette vision n'est pas sans conséquence pour la démarche scientifique, ou peut ne pas être sans conséquence. Et ça, c'est un peu l'objet de mon intervention. Et je vais d'abord dire quelques mots sur la religion. Si l'on prend les textes sacrés, je ne vais pas dire lesquels parce que je ne les ai pas tous lus, mais vous pouvez prendre par exemple le Pentateuque ou le début de la Genèse dans la religion juive ou dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans la religion chrétienne. Et là, vous voyez que Dieu, il se comporte un peu comme un surhomme qui crée des choses très compliquées. Hein, par exemple, l'univers, ce n'est pas très simple. Et que c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous pouvons en général construire. Mais il le faisait aussi dans un certain but. Cette belle maison, et ça c'est encore plus clair dans la religion chrétienne, cette belle maison que nous pourrions construire pour avoir nous abriter, l'univers, lui, que créait Dieu, était fait pour réaliser son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, c'était l'homme. Un peu la femme, un peu moins, parce que tout de même à l'époque, c'était moins bien vu. Et donc, c'était l'homme, un peu la femme. Et pourquoi ? Mais parce que, en tous les cas, dans la religion chrétienne, c'était des êtres doués d'une âme éternelle. C'est évidemment important. Cet univers, qui est au fond un univers de cause finale, c'est-à-dire de choses qui sont faites pour ce qui va arriver, n'est bien sûr pas présenté, comme c'est chez les êtres humains, pour affirmer que nous avons créé Dieu à notre image, mais évidemment que lui nous a créé à la nôtre. Et ce qui fonde cette inversion, je dirais inversion dans le sens que, à première vue, ce serait plutôt l'autre vision qui serait correcte, mais enfin, c'est ce qui fonde cette inversion, c'est précisément l'hypothèse de la création de l'univers par Dieu. Elle pose l'antériorité logique de Dieu sur la matière, et si Dieu est un esprit créateur, fondamentalement, elle pose l'antériorité de l'esprit sur la matière, de la pensée sur la matière. C'est dans cette vision idéaliste de l'univers, où l'idée produit la matière, que pour moi, je pense situer le sentiment religieux. Ce sera la manière très simple dont je le situerai. Et je ne le partage pas, je vous l'ai dit tout de suite, mais je peux très bien comprendre, et à ce point de vue, je n'ai aucune opposition du point de vue intellectuel, sauf que je n'y crois pas, pour des raisons qui vont apparaître assez clairement, mais je peux très bien comprendre qu'on puisse y adhérer. Maintenant, je m'excuse si ce que je vais dire fait un peu polémique, mais je me sens obligé de le dire parce que c'est mon sentiment. Ce que je appelle les dérives de l'idéalisme, que sont toutes les superstitions sans simple actuelles, ou tous les contes et légendes qui se trouvent dans les textes sacrés, avec tous leurs miracles et tous leurs mystères, me paraissent, pour moi, d'un niveau d'une telle immaturité intellectuelle que je reste sidéré et un peu, je dois le dire, terrorisé de voir qu'on puisse le prendre au sérieux. Bon, j'ai pas dit quelques mots sur ce que j'appelais la religion, et maintenant je vais parler de la démarche scientifique qui est malheureusement quelque chose de très peu connu du public, je dis même pas du grand public. Alors, je vais essayer d'expliquer tout de même de quoi il s'agit. Probablement confronté aux différents mystères de la nature, fragilisé par leur vulnérabilité et aussi par, surtout, par la dispersion nécessaire dans la mort, les hommes ont toujours cherché à comprendre dans toutes les civilisations et depuis très longtemps l'inconnu, cet inconnu qui était au fond très menaçant. Ils ont fait appel à des pouvoirs surnaturels, à Dieu, aux dieux, à des esprits, mais certains trouvaient que les réponses étaient finalement pas très satisfaisantes, et de là finalement a surgi la vision d'un monde, le monde scientifique, dans lequel ils ne sont pas nécessaires. La vision scientifique a été préparée depuis des siècles, voire des millénaires, par des considérations expérimentales et théoriques. Mais la vraie recherche scientifique, je vais expliquer de quoi il s'agit, celle que nous connaissons, est extraordinairement récente dans l'histoire de l'humanité. Elle est apparue en Europe, à la Renaissance, et à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais à convaincance, nulle part ailleurs avant. Ce n'est qu'il y a environ, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc, apparaît à la Renaissance, quelque chose qui est de l'ordre d'une extraordinaire révolution intellectuelle et qui est peut-être la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité. Galilée, il est mort dans la première moitié du XVIIe siècle, comprenant que la Terre tournait sur elle-même en 24 heures, n'est-ce pas ? Montre que l'insensibilité que nous avons, en particulier à ce mouvement, peut s'expliquer par une propriété physique du mouvement qui affecte tous les objets, qu'ils soient connus ou même à découvrir pour lui, inanimés ou vivants, c'est la même chose. C'est le principe d'inertie qui, grosso modo, affirme l'impossibilité dans un système physique, grosso modo, de détecter un mouvement en ligne droite qui est à vitesse uniforme. Si vous croyez, vous pouvez faire l'expérience vous-même, quand vous conduisez la voiture, si vous la conduisez bien sur une route droite, eh bien vous ne sentirez pas le mouvement de la voiture. Ça, c'est le principe d'inertie. Et l'universalité de ce principe a en fait ouvert les bases d'un développement extraordinairement rapide de nos connaissances vers une rationalité ou vers une intelligibilité rationnelle de l'univers. Les découvertes de Galilée, donc il y a ça, etc., allaient effectivement ouvrir la perspective, et c'est ça que j'appelle la démarche scientifique, c'est celle qui se fait dans cette perspective, la perspective d'une vision de l'univers où tous les phénomènes observables dans leur diversité seraient des manifestations particulières de lois générales qui sont encodées dans le langage des mathématiques et qui sont vérifiables expérimentalement. Ces lois que Galilée ne pouvait pas encore connaître, mais dont il avait une certaine préscience, et d'ailleurs il a fait des choses, régirait le comportement de tout objet, qu'il soit inanimé ou vivant. Aujourd'hui, 4 siècles plus tard, où en sommes-nous? Les constituants ultimes de la matière sont connus, avec une restriction que je vais faire dans un moment. Et les quelques lois qui les gouvernent, en fait 4, c'est tout, sont toutes connues, mais pas partout. Évidemment, on ne connaît pas tout. C'est-à-dire, elles sont connues entre certaines échelles de longueur. Elles sont connues depuis le millionième de milliardième de centimètre, n'est-ce pas, c'est une distance bien plus courte que celle de l'atome, jusqu'à celle de l'univers observable qui, lui, se trouve en centimètres à 10 milliards de milliards de milliards. Ça fait tout de même une grande échelle et ce sont les mêmes particules élémentaires, les mêmes lois qui agissent dans tout cet énorme intervalle de distance. Ça, c'est connu, vérifié de toutes sortes de manières. Ces lois incluent dans leur champ d'application la physique nucléaire et subnucléaire, des distances bien plus petites que le noyau de l'atome, la chimie, totalement inclue conceptuellement dans la physique, la biologie moléculaire, toute la physique bien sûr à notre échelle, l'astrophysique et la cosmologie. Elles sont codifiées dans 2 grandes séparations. Disons, elles sont codifiées dans ce qu'on appelle le modèle standard des particules élémentaires, qui contiennent les particules et les lois dont j'ai évoqué, et le modèle dit de concordance de l'univers, qui est fondé sur quelques paramètres qui permettent en plus de définir l'expansion de l'univers. Alors, ça commence. Bon. Depuis le 100 milliardième de seconde après la naissance de l'univers, puisqu'on a décidé qu'il est né ou qu'il a été créé, c'est le goût de chacun, jusqu'à nos jours, donc depuis ce moment-là jusqu'à nos jours, l'évolution de l'univers est déterminée par les lois et les constitutions du modèle standard, auxquels il faut ajouter les masses, dites de la matière noire et de l'énergie noire. Alors, j'ai peut-être été un peu rapidement pour dire ce qu'était le modèle standard, mais enfin, essentiellement, C'est une découverte en 1964, où j'ai été mané, qui a permis de... qui a lancé, si vous voulez, les bases du modèle standard en expliquant comment on pouvait comprendre l'origine des masses, des particules, des constituants élémentaires de la matière. Et du point de vue de l'univers, c'est essentiellement la découverte que j'ai déjà mentionnée en 1965 du rayonnement qui a permis, avec les lois qu'on met quelquefois dans le modèle standard, mais qui en fait sont les lois d'Einstein de la relativité générale, d'étudier l'histoire de l'univers. Donc, comme je disais, cette histoire, elle est connue depuis un certain moment, qui serait à peu près, comme j'ai dit, le 100 millionième de seconde après la naissance. Et ici, il faut tout de même faire une remarque. J'ai signalé qu'il y avait des choses que je n'avais pas dit dans le fait que tout était connu, sauf certaines choses. Et bien là, il y a certaines choses qui ne sont pas connues et je ne vais pas commencer à expliquer, mais les noms sont matière noire et énergie noire. Et ces choses-là sont des paramètres du modèle dit de concordance que j'ai mentionné. Mais on n'en connaît pas la structure élémentaire, autrement dit, on ne sait pas exactement ce que c'est. En tous les cas, pour la matière noire, et c'est plus compliqué encore pour l'énergie noire, mais je ne veux pas entrer dans les choses compliquées. Gardons ça simple. Bon, mais donc on connaît tout ça, et on pourrait donc éventuellement décrire toute l'évolution de l'univers si on en connaissait évidemment le début, c'est-à-dire la naissance. Ça, on ne la connaît pas. Mais je dois tout de même signaler que nous savons maintenant avec, je dirais, une quasi-certitude, pas encore vraiment une certitude scientifique, mais si vous me demandez de parier, je parie que c'est correct. Voilà. Il faudra encore attendre, disons, peut-être pas moi, mais vous, une dizaine d'années, et à mon avis, ce sera vérifié. Ça, c'est mon avis. C'est que toutes les galaxies, les milliards de galaxies qu'il y a et qui sont composées aussi de milliards d'étoiles, ils ont une origine qui est très proche de l'origine de l'univers. Le chiffre le plus probable est, je vais essayer de ne pas me tromper dans les milliardièmes, mais c'est un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde après la naissance. Et comment est-ce que c'est né? C'est né par des toutes petites fluctuations qui sont, on appelle des fluctuations quantiques, qui se sont qui font partie de la physique qu'on connaît, mais pas totalement, et que donc ils ont donné la naissance à tout l'univers structuré que nous connaissons. Bon, à partir de là, ça suggère évidemment que, du point de vue scientifique, l'origine de l'univers même est probablement due à ces mêmes fluctuations quantiques. C'est d'ailleurs ce que nous avions, quand je dis nous, c'est Brout, Kunczyk et moi-même, nous avions proposé en 1977, comme donnant une expansion extrêmement rapide de l'univers qui est aussi une des choses qui va être vérifiée, qui pense pas tout à fait vérifiée, mais ça va l'être, parce que sinon il y a des tas de choses qui ne se comprennent pas. Alors, il est important de voir que si c'est vrai, ça unifie l'infiniment petit des particules élémentaires avec l'infiniment grand de l'univers, puisque les deux ont leur origine, ou auraient leur origine, pour être précis, dans une petite fluctuation quantique. Et ici, je dois dire que la personne qui a le premier pensé, à ma connaissance, à ça, c'est le chanoine Lemaître, et un religieux. Et donc, c'est une idée, il ne l'a pas fait de manière précise, mais c'est lui qui en a eu l'idée. En premier lieu. Bon, alors ceci m'amène maintenant à discuter la nature de ce succès. Le succès extraordinaire, donc de la vision de la démarche scientifique telle que je l'ai définie et telle qu'elle commence il y a environ 4 siècles seulement. Ces succès extraordinaires ont été obtenus en des temps extraordinairement courts, finalement, par rapport à l'histoire de l'humanité. Et ils ont permis de comprendre par les lois scientifiques, finalement, tous les phénomènes naturels dont la description nous est actuellement accessible. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas vraiment décrire tous les phénomènes et alors il est très difficile de savoir ce que la science prédit pour eux. Je vais donner l'exemple tout de suite. Et elle a aussi, évidemment, donné naissance à pratiquement tous les développements techniques qui font de la société contemporaine. Mais ça, c'est un point sur lequel je ne vais pas discuter maintenant du tout. Les succès, ces succès sont considérables, mais ils n'épuisent pas, à mon avis, le questionnement sur la quête du savoir. Non seulement parce qu'ils sont incomplets, parce que toutes ces choses sont dans les limites des échelles que j'ai dites, qui sont énormes, mais pas infinies. Donc, elles sont incomplètes, mais c'est aussi leur généralité qui va poser problème. Et ça, je vais expliquer maintenant. Il faut se rappeler que les lois scientifiques régissent le comportement des choses, qu'elles soient pensantes ou non. Ça n'a aucune importance pour la chose. De plus, les êtres vivants, et en particulier les humains, sont soumis à des lois, mais pas, il n'y a pas de loi inconnue là-dedans. On les connaît toutes, ces 2 parmi les 4 que j'ai dit, qui sont clairement les seules qui peuvent agir sur les êtres vivants. Et qui n'ont, ces lois n'ont jamais été mises en défaut. Elle gouverne donc en principe tout le comportement des êtres vivants, aussi compliqué et aussi extraordinairement subtil et peut-être. Mais tout de même, leur application reste limitée. Et c'est là que je reviens en fait que les succès, il faut faire attention. Reste limitée pour des systèmes aussi complexes que ceux que je viens d'évoquer, par la quasi-impossibilité de connaître avec suffisamment de précision l'état de tous les constituants matériels qui entrent en jeu. Vous avez d'ailleurs signalé le problème de ce qui se passe personnellement. Je vais laisser ça pour la discussion, mais je ne pense pas que ce soit contradictoire avec ça. Il me paraît, maintenant, raisonnable, mais pas certain, de supposer que la complexité des êtres ne pose qu'un problème technique. Ce n'est pas évident à l'application générale des lois. Ce n'est pas évident, parce que c'est possible qu'il y a quelque chose que, si on ne sait pas vraiment, poser les conditions initial parce que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de choses qui entrent en ligne de jeu, ben, peut-être qu'il y a là une limite qui n'est pas simplement technique. Ça peut être quelque chose. Je peux revenir à ça dans la discussion. Conformément d'ailleurs à cette hypothèse, donc celle où ce serait purement technique, je signale tout de même que le principe d'inertie, que j'ai évoqué au début comme le point de départ de tout ça, que ce principe d'inertie a subsisté sans modification essentielle. Je ne vais pas insister sur le mot essentiel, mais pratiquement il n'y a pas de modification, conceptuelle en tous les cas, depuis Galilée jusqu'à la formulation des lois scientifiques les plus récentes, donc de toutes celles qu'on connaît. Et c'est clairement vérifié par tout être vivant, quelle que soit la complexité dans laquelle il est. Comme j'ai dit, faites un tour en voiture et vous verrez que c'est vrai. D'ailleurs, c'est plus simple. se voir que quand vous laissez tomber quelque chose par terre, à cause de la rotation de la Terre, vous ne la voyez pas tomber en arrière. Ça, c'est une histoire amusante. Enfin, on va voir. Oui. Bon. Donc, il y en a un succès extraordinaire, si on fait même cette hypothèse, mais ça pose une question qui, pour moi, reste fondamentalement une question lancinante. C'est quel est le rapport qu'il y a alors entre la matière et la pensée ? C'est uniquement dans la matière que la science fondamentale situe l'enchaînement des causes. La pensée semble n'y être qu'un simple reflet. Il y a donc, disons, quelque chose comme un matérialisme scientifique qui paraît s'opposer à ce que j'ai appelé l'idéalisme religieux. Parce que, ou la pensée dans l'idéalisme religieux, c'est la pensée qui crée la matière. Mais il y a une grande différence. Il me semble qu'on ne peut pas considérer dans le monde scientifique que la matière crée la pensée. Parce que celle-ci peut prendre connaissance du monde matériel, c'est ça son rôle dans la manière dont elle agit au niveau de l'intelligibilité scientifique, mais il n'y a pas de manière de voir dans le monde scientifique comment, je parle au niveau fondamental, je ne parle pas au niveau de toutes les sciences qu'on pourrait appeler phénoménologiques qui étudient par exemple le comportement de la matière. Évidemment, tout ça est valable. Mais si vous essayez d'analyser ça avec l'hypothèse que j'ai faite qu'il n'y aurait qu'une direction technique, hypothèse d'ailleurs dont je ne suis pas certain qu'elle est correcte, mais c'est une, si on fait cette hypothèse-là, de toute façon, si on analysait en détail, il n'y a que matière qui influence matière, il n'y a pas d'effet de la pensée, sauf celle de prendre connaissance. Et comment peut-on comprendre cela ? Je ne sais pas. Mais je voudrais tout de même signaler que, on a déjà parlé de Spinoza, c'est pour moi un esprit extraordinaire. Spinoza est décédé en 1677, c'est-à-dire 10 ans avant la publication de la première loi scientifique générale par Newton. Donc, il est décédé avant l'existence même de ce que j'ai appelé la vision de scientifique du monde. Et dans son livre, qui est, le livre le plus important qu'il a écrit, dans lequel, qui s'appelle L'Éthique, il expose dans l'éthique une conception du monde où pensée et matière, plus exactement, on ne parle pas de matière, il parle d'étendue, extensio en latin, tout est écrit en latin, et agissent tous deux de manière déterminée sous l'effet d'un enchaînement identique de causes sans que l'un puisse agir sur l'autre. Donc, là, il y a une espèce de parallélisme chez lui entre matière, les lois causales de la matière et les lois causales de l'idée, que finalement, dans ce qu'il appelle Dieu, ou ce qu'on voudra appeler peut-être la nature, c'est essentiellement la même chose. Et voilà, c'est la vision, je ne prétends pas qu'elle est... C'est une vision extraordinaire, je trouve, et je n'ai pas l'intention ici de discuter son analyse, je n'ai évidemment pas le temps, et je n'ai surtout pas la compétence pour le faire. Mais je voudrais insister sur le fait que cela suggère tout de même que la démarche scientifique, dont on ne peut aujourd'hui vraiment apprécier les possibles limites, et il y en a peut-être, est une approche qui est tout de même potentiellement cohérente de l'univers dans sa totalité. Merci.
Bien voilà. Comme on le dit au Congolovision, le vote du professeur Englert clôture la tournée de nos intervenants. Je pense que, effectivement, c'est moi qui le dis, il y a une grande diversité, une grande richesse. Le thème semble simple au début, science et croyance, mais c'est comme la création de l'univers. Il y a plus que quelques milliards de microns de millimètres. Il y a quand même quelques mètres qui séparent ces deux notions, ces deux concepts. Un milliardième de milliardième, j'en avais oublié, non, vous m'en excuserez, mais je suppose que vous aviez compté, vous avez retrouvé le bon chiffre directement.